Good Morning Business, le grand entretien.
Le grand entretien, c'est Raphaël Dohan qui est avec moi, essayiste et ancien haut fonctionnaire. Bienvenue dans la matinale de l'économie.
Bonjour, merci.
On peut parler d'intelligence artificielle aujourd'hui. Vous êtes co-auteur de l'opération Prométhée, note publiée dans le Grand Continent, qui propose de faire de la France, et pas de l'Europe, hein, de la France, la troisième puissance mondiale de l'intelligence artificielle. Vous y défendez la création d'un laboratoire français de l'IA, capable de rivaliser avec les États-Unis et la Chine. Expliquez-nous l'idée.
Oui, alors c'est une idée qui nous est venue du fait qu'aujourd'hui, la France n'a en fait pas de stratégie sérieuse en matière d'intelligence artificielle. Alors que c'est en train de devenir, l'IA, un flux vital pour notre économie, un peu au même titre que des ressources comme le gaz, le pétrole ou l'électricité l'ont été jusqu'ici. Mm-hmm. De sorte que si nous n'avons pas les moyens d'assurer notre propre production de ce nouveau flux vital, nous sommes dépendants de nos fournisseurs. Un peu comme certains pays sont dépendants du gaz russe de Poutine, et on a vu à quel point c'était grave pour leur indépendance nationale. Donc l'idée, ce serait de dire, est-ce que nous avons les moyens de fournir notre propre intelligence artificielle, d'alimenter notre économie, sachant que le risque, si on ne fait rien, c'est que il est double en fait. Il y a d'une part, nous risquons, et ça va, c'est déjà en train d'arriver, ça va s'accentuer au fur et à mesure, de verser des centaines, voire des milliers de milliards d'euros aux Américains pour acheter l'intelligence qui va ensuite alimenter notre économie. Le deuxième risque, bien sûr, c'est que ça donne aux Américains, et éventuellement aux Chinois, si jamais on repose sur des modèles chinois, ce qu'on appelle un kill switch, donc la capacité de désactiver instantanément notre accès à ces modèles, peut-être aux modèles les plus puissants, et donc de désactiver quasiment soit notre économie entière, soit au moins les capacités les plus critiques.
On voit bien le danger dans le pire des cas, mais ce que vous dites, moi ce qui m'étonne, c'est que vous ne mettiez pas ça au niveau de l'Europe, parce que les investissements massifs que ça va demander, vous les chiffrez à 620 milliards d'euros sur 3 ans. La France a-t-elle les moyens et la taille de lutter contre des continents, enfin des pays aussi grands que la Chine et les États-Unis?
Alors le grand enseignement de notre plan, ce qu'on a calculé, c'est que oui, alors pas forcément tout seul d'ailleurs, le but n'est pas d'être contre une coalition de partenaires. Au contraire, on pense que ce serait très bien que la France mène un mouvement qui soit rejoint par des pays européens, mais pas seulement. D'ailleurs, le Canada, la Corée ou le Japon pourraient aussi être intéressés. En fait, toutes les puissances moyennes qui n'ont pas envie que s'installe une sorte de duopole entre la Chine et les États-Unis et qui aimeraient qu'un troisième acteur émerge. Alors, oui, les montants sont très très importants, 620 milliards d'euros donc d'investissement sur 3 ans. C'est une sorte de sprint en fait qu'on cherche à faire pour... Ouais. Aboutir à un laboratoire capable d'entraîner des modèles d'IA qu'on appelle de frontières, donc les plus puissants au monde. Et pour faire ça, il faut en fait surtout de la puissance de calcul. Donc des centres de données, des GPU, de quoi faire tourner, entraîner et faire tourner les modèles. C'est ça qui est le plus important et ça demande aussi l'alimentation électrique. Donc ce dont on a besoin, on calcule qu'en 2029, pour avoir le même niveau de puissance que chacun des laboratoires américains aujourd'hui, il faudrait qu'on ait 12 gigawatts de puissance de calcul, ce qui est très très loin de ce qu'on prévoit aujourd'hui d'investir en Europe. Alors la France aurait les moyens de le faire. En réalité, on n'est pas dans des ordres de grandeur si différents, si absurdes que ça, surtout avec d'autres partenaires européens ou pas. Vous savez, depuis le sommet IA qu'il y a eu en 2025,
en février,
et,
oui.
Voilà, et le sommet Choose France, enfin, le dernier de 2026, il y a eu déjà une annonce de 150 milliards d'euros pour les data centers en France. Là, en l'occurrence, ça veut dire que si on multiplie ce chiffre par 3 ou 4, ce qui n'est pas un ordre de grandeur délirant par rapport à ce qu'on a déjà, on arrive à peu près à l'objectif. Sachant que le capital international est tout à fait disposé à investir en France parce qu'on a des atouts majeurs. En premier lieu, le surplus d'électricité qu'on a grâce au nucléaire. Donc tout ça, c'est quelque chose qui attire les investissements étrangers. Et donc le but n'est pas de se fermer d'ailleurs, y compris au capital américain. On peut aussi financer ce projet-là avec de l'argent américain. Le but étant d'avoir... En fait, de garder la valeur ajoutée qu'il y a à la fois au centre de données, en plus de l'électricité, et ensuite au modèle d'intelligence artificielle qu'on fait tourner sur ces centres de données.
Alors, mais comment concrètement, au-delà des investissements étrangers, comment vous le financez? On est dans un pays qui n'a jamais été aussi endetté. Alors certes, il y a de l'épargne, mais comment vous dirigez l'épargne des Français vers ce type de projet, par exemple?
Alors, il y a deux choses. Clairement, si le privé, si organiquement l'économie devait faire aboutir un projet comme ça, il l'aurait déjà fait. Enfin, ça aurait déjà passé. Donc, on pense que l'État doit effectivement lancer un mouvement massif. C'est vraiment un grand effort national à faire.
Ouais.
Il le fait de deux manières dans notre plan. D'abord, en investissant lui-même, effectivement. Mais alors, c'est des sommes importantes, mais évidemment, l'idée, c'est pas que l'État finance les 620 milliards du tout. On pense qu'on peut on peut amorcer la pompe suffisamment avec environ 1% de déficit, 1% du PIB de déficit supplémentaire chaque année, mais seulement pendant 3 ans. Donc, c'est le sprint qui permet ensuite au laboratoire de voler de ses propres ailes et de réinvestir lui-même pour la suite. Mais surtout, il doit également accélérer la construction des centres de données et en fait simplifier les procédures. Donc on imagine une sorte de loi Prométhée, comme il y a eu une loi Notre-Dame, pour faciliter et inciter en fait les investisseurs étrangers à venir et à se raccorder en France. On a vraiment ce qui intéresse le plus les investisseurs en centres de données, les gens dont on a besoin, c'est ce qu'on appelle le time to power, donc la capacité à se raccorder le plus rapidement possible à la grille électrique. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'offre pas tout à fait aujourd'hui, mais qu'on pourrait offrir avec un changement législatif important. Donc c'est le rôle de l'État serait double, à la fois de lui-même mettre au pot pour une petite partie et de manière momentanée, ce qui augmenterait la dette publique de 4% au total à la fin, ce qui ne paraît pas délirant pour quelque chose qui est un vrai investissement pour l'avenir, pour le coup.
Le projet de l'Union européenne de lancer pour 30 milliards des giga-usines l'IA avec des centres de données, du coup, ça c'est un projet particulier, pas aussi global que le vôtre, mais est-ce que c'est un bon début ou qu'est-ce que vous y voyez comme défaut?
Ça va dans le bon sens, disons, parce que c'est très bien qu'on construise plus de puissance de calcul en Europe, c'est vraiment le cœur, hein. On oublie parfois un peu, mais la puissance de calcul, c'est le cœur de la puissance tout court en matière d'intelligence artificielle et donc de puissance en général. Le problème, c'est simplement les ordres de grandeur. En fait, la Commission européenne a annoncé son appel d'offres sur les gigafactories hier à 30 milliards d'euros. Donc nous, on pense qu'il faut 20 fois plus pour être au niveau d'un laboratoire américain. On ne dit pas d'ailleurs qu'il faut avoir toutes les puissances de feu des Américains qui, eux, ont les reins suffisamment solides pour avoir 4 ou 5 laboratoires qui se font concurrence. Nous, on pense qu'on peut au moins essayer d'en avoir un, ce qui serait déjà extraordinaire et vraiment absolument indispensable si on ne veut pas en fait être soumis et avoir une sorte de vassalisation permanente dans les années à venir.
Ce qui nous pose problème dans l'IA, c'est aussi la souveraineté du côté des puces. Et là, la Chine et les États-Unis ont une avance considérable. Pour le moment, on s'appuie sur des fabricants américains, Nvidia, Qualcomm, et ça, on va avoir du mal à compenser ce retard-là aussi dans les puces.
Oui, clairement, si on lance un projet comme ça, et d'ailleurs on voit avec l'appel d'offres de la Commission européenne, il faut passer par des puces américaines aujourd'hui, au moins au début. Ça c'est certain, il n'y a pas d'autre choix.
Donc c'est notre souveraineté à nous sur des acteurs étrangers.
Pour l'instant on est obligé, sachant qu'à la limite le goulot d'étranglement il est plutôt du côté de la fabrication des puces, donc vous savez de TSMC à Taïwan, plutôt que le design des puces qui se fait donc par Nvidia ou AMD aujourd'hui, on voit que ça commence à se diversifier, que Nvidia ne va pas forcément garder le monopole qu'elle a aujourd'hui. Mais le plus important, c'est que pour moi, la dépendance vitale, celle qui nous rendrait vraiment, qui nous ferait vraiment payer un tribut en quelque sorte aux Américains, ce serait la dépendance au modèle d'intelligence artificielle. Le fait qu'on doive acheter des puces au début pour financer nos investissements d'infrastructure, quitte à ce qu'après une filière européenne se construise dans les décennies à venir, ça me paraît moins grave, parce que là, il y a une sorte de latence, alors que la dépendance au modèle d'IA, c'est quelque chose, on l'a vu avec les contrôles à l'export qui ont été placés momentanément sur les modèles d'Anthropic au début de l'été, c'est quelque chose qui est beaucoup plus soudain, beaucoup plus critique. Et donc, on doit faire un choix entre nos différentes parties de dépendance, sachant que sur la chaîne d'infrastructures nécessaires, l'Europe a aussi des maillons de la chaîne. Il y a ASML, donc la fabrication des machines qui permettent de fabriquer les puces dont on parle souvent, mais il y a aussi des composants optiques qui sont disponibles en Allemagne, par exemple. Donc, on a des atouts à faire valoir aussi de ce point de vue-là.
Une dernière question. Vous ne croyez pas à l'open source ?
Alors, j'y crois pour certains aspects, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'open source, c'est plus l'open source du logiciel d'il y a 10 ans. Pour entraîner un modèle d'IA de frontière aujourd'hui, à la meilleure capacité de puissance, en fait, il faut une puissance de calcul énorme, il faut plusieurs gigawatts disponibles. Donc, il n'y a que des gros acteurs qui peuvent le faire, et rien ne garantit que ces gros acteurs chinois ou américains continuent de publier en open source les poids de leur modèle, donc le paramètre de leur modèle.
Ça donne trop de pouvoir à
l'avenir.
Ceux qui font ça.
Voilà, il y a un risque, et puis, on ne peut pas garantir que l'Europe aura toujours accès à l'investissement des autres. Donc, c'est un pari dangereux de reposer sur l'open source.
Et un peu utopique. Merci Raphaël Dohan
d'être
venu essayiste et ancien haut fonctionnaire dans la matinale de l'économie.